Développement durable. Un magazine sur l'environnement et le développement durable. Une émission coproduite par Fréquence Sillée 97.9 et Radio Alpes-Mancelle 106.3 en partenariat avec le Pays de la Haute-Sarthe.
Albert Einstein avait soutenu la théorie que si les abeilles venaient à disparaître, eh bien l'homme n'aurait plus que 4 années devant lui. Elles butinaient le nectar des fleurs pour nous offrir leur miel. C'est grâce à la pollinisation des fleurs par les abeilles que la Terre nous offre ses fruits. La disparition massive de ces insectes inquiète sérieusement au sujet de ce syndrome d'effondrement sans précédent sur notre planète. Les abeilles disparaissent-elles vraiment ? Peut-être une réponse, en tout cas nous l'espérons, avec notre invité aujourd'hui, Pascal Fouché, du rucher de l'abeille situé sur la hutte. Monsieur Fouché, bonjour.
Bonjour.
Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler à travers le ciel.
Vous êtes apiculteur vous-même ou est-ce que vous vendez le miel simplement ?
Non, nous sommes apiculteurs depuis 4 générations maintenant.
C'est votre arrière-grand-père ?
Voilà, c'est l'arrière-grand-père du côté de maman qui a commencé.
On va dire son nom, hein ?
L'arrière-grand-père ?
Ah bah oui, faut lui rendre un petit
content,
hommage.
Il sera content, Casimir Ménian à Sellery-Boul.
Voilà, Casimir Ménian qui en 1916 donc a eu... Comment ça s'est passé pour lui ? Il a eu un coup de foudre pour cette espèce ?
En fait... Plus ou moins, c'est-à-dire que à l'époque, il avait sept ans quand il a commencé, et puis avant d'aller à l'école, et ben à cette époque-là, fallait aller traire les vaches, sortir les chevaux, etc. Et puis le paysan chez qui il travaillait lui avait dit, bah tiens, Casimir, il y a 3 ruches au fond du jardin, il va falloir que tu t'en occupes, quoi. Alors Casimir, bon, première chose qu'il a fait, il a été ouvrir sans voile, sans rien. Bon, il est revenu, il était tout piqué, tout boursouflé, c'était un peu la folie. Et puis il s'est piqué au jeu, on va dire. Et il a aimé les abeilles, et puis après il a vu 4, 5 ruches, 10 ruches.
Donc 4 générations depuis 1916, c'est dire si vous avez une grande connaissance de cet insecte et si vous êtes à même donc bien de mesurer les conséquences de cette disparition. Alors est-elle réelle ? Est-ce que vous-même vous l'avez constaté ?
Ah oui, même c'est catastrophique, même c'est une disparition, même on se pose des questions, on va dans un rucher à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on va trouver ? Est-ce qu'on va trouver tout de mort ? Enfin, plus d'abeilles, des mortalités devant la ruche, où tout va être bien. C'est des questions qu'on se pose à chaque fois qu'on va aux ruches. Quoi. Ça, c'est le gros souci. Avant, on n'avait pas le problème de se dire, ben, on va aux ruches, voilà, on va trouver nos ruches avec nos petites abeilles qui vont, qui viennent, qui rapportent du pollen, tout est bien. Et maintenant, non, sur 25 ruches, on va en trouver peut-être 10, on ne va plus retrouver d'abeilles. C'est comme un agriculteur qui fait la traite le soir, le lendemain, il va pour refaire la traite des vaches. Et là, il y a les tables, on va dire, la stabulation, elle est vide, quoi.
C'est-à-dire qu'elles ont disparu. Voilà. Vous retrouvez même pas les corps.
Non, on retrouve pas les corps, on retrouve pas les abeilles. Elles laissent le couvain, ce qu'on appelle le nid. Hein. Donc elles laissent le nid, elles laissent le miel, elles laissent tout. Elles laissent tout. On peut même pas faire d'analyse sur les abeilles, on retrouve rien.
Et donc, ça ne s'était jamais produit auparavant.
Et non. Donc on se dit, est-ce que c'est notre faute ? Est-ce que c'est le climat ? Est-ce que c'est l'environnement ? Les ondes magnétiques ? Les ondes téléphoniques ? Donc c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Et c'est très grave quand même. C'est très grave. Moi j'ai des collègues, 400 riches, ils ont tout perdu. Ils ont fermé boutique. Hein. Moi j'ai eu des grosses pertes il y a 2 ans. J'ai hiverné 135 colonies. Et il ne m'en restait plus que 25 à la fin de la saison. À la fin de l'hiver.
Alors on a mis beaucoup cette disparition sur le compte aussi de certains produits.
Oui, ça c'est facile à dire. Ah hein. Oui, voilà, c'est des agriculteurs, ils traitent. Bon, voilà. Non. Oui, ça joue. Oui, c'est sûr, ça joue. Même sur la santé humaine, ça va jouer. Ça c'est clair. Mais il n'y a pas que ça. Faut être réaliste. Les produits phytosanitaires, ça joue. Le climat joue. Les ondes jouent. L'emplacement des ruches. Le travail de l'apiculteur. Enfin, tout. C'est tout un mélange de tout qu'il faut que l'abeille elle se réadapte.
Et donc, pour l'instant, on n'a pas de piste.
Non. Non.
Les scientifiques ne donnent aucune explication à cette disparition.
Ouais, il y en a qui disent que c'est les produits phyto, d'autres qui vont dire que c'est une maladie, c'est un microbe, enfin il y a plein de pistes à explorer.
Alors on a parlé également du frelon asiatique qui serait grand consommateur et amateur de nos petites abeilles, lui aussi aurait sa part dans la disparition.
Une autre disparition, oui. Hein, c'est, si c'est le frelon, on le sait. On a la population qui diminue, on a moins de butineuses, parce qu'en fait, le frelon, il fait du statique devant la ruche, il fait comme un hélicoptère. Mm-hmm. Et dès que l'abeille, elle va sortir ou re-rentrer dans la ruche, il va la choper et lui couper la tête. Et va l'emmener dans son nid. Donc ça, on va savoir que c'est le frelon. Donc ça, après, on met des grilles d'entrée pour éviter que le frelon, il rentre. Enfin, on s'adapte.
Et ça ne décime pas toute une colonie.
Ça va la décimer, mais on va savoir le pourquoi du comment. Tandis que
ça va être moins brutal.
Voilà. Et le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est que sur la disparition des abeilles, on ne sait pas pourquoi. Le pourquoi du comment. Donc on cherche, chacun fait ses petites expériences dans leur coin. Il y en a qui ne traitent plus, il y en a qui font ci, il y en a qui font des plateaux, des fonds grillagés. Il y a plein d'expériences de fait. Mmh. Et on arrive, il y en a certains qui disent que c'est ça qui est mieux, ça qui est mieux, ça qui est mieux. Bon, on n'arrive pas à savoir exactement ce que c'est. Aujourd'hui, on ne sait pas.
Donc, un grand mystère hein, qui ouais. plane autour de ces disparitions.
Petite abeille qui nous donne un grand mystère.
Au niveau des ondes donc téléphoniques, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme influence? Perturber leur sens de l'orientation? Elles ne retrouveraient plus leur nid?
Mais, moi, j'ai eu l'expérience sur deux ruchers que j'avais mis. Deux ruchers qui, notamment un sur Verny, où ils ont mis une antenne il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, qui marchait très très bien. Et depuis qu'ils avaient mis l'antenne, après, dans les six mois, les abeilles ont toutes disparu. Donc moi, je pense que ça peut avoir une influence. Après, est-ce que ça a une influence? Là, je sais pas. Je suis pas scientifique pour le dire. Et même, est-ce que les scientifiques qui travaillent sur les ondes vont le dire? Parce qu'après, il y en a partout des ondes. Hein. Ça pourrait jouer sur la fécondation des reines également. La fécondation des reines, elle se fait sur des différents endroits. Il y a des endroits à fécondation. Ça pourrait perturber la propagation des mâles. Ça pourrait perturber le vol nuptial. Ça pourrait perturber tout ça. Donc c'est à étudier aussi, c'est à étudier.
Est-ce que vous êtes justement contacté par ces différents scientifiques en tant qu'apiculteur pour relater vos expériences?
Nous non, mais j'ai certains collègues, oui. Ouais, c'est des collègues qui travaillent surtout avec l'INRA, hein, qui sont vraiment dans le sud de la France parce que la saison apicole est beaucoup plus longue, ils ont plus d'abeilles, donc ils font plus d'expériences dans le sud que dans le nord. Mais on a des notes aussi tous les ans à donner pour notamment sur les fécondations, sur pas mal de petites choses pour les renseignements quoi. Hein, pourquoi elles sont mortes, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans les ruches, surtout sur ces choses-là.
Est-ce que vous pensez que tout un chacun, enfin tous les gens, mais même j'ai vu sur des balcons, paraît-il, on peut avoir une ruche hein, sur un balcon. Est-ce qu'on a un rôle à jouer, nous, en tant que particulier, même si on n'est pas apiculteur? Est-ce qu'on peut devenir apiculteur amateur? Est-ce qu'on peut aider à stabiliser une population d'abeilles?
Oui, on peut aider les gens qui ont des fleurs, qui ont des fruits sur un balcon ou d'un petit jardinet, si, entre guillemets, ils traitent. Augmentez pas les doses, ça ne revient à rien. Et en même temps, on va détruire tout ce qui est insectes pollinisateurs, tout ce qui est les autres petits insectes qui ont besoin. Donc ça, c'est la première des choses. Et après, devenir apiculteur amateur, oui, on peut tous. Moi, je donne des cours, notamment à partir de cette année, là, des cours d'initiation à l'apiculture, de la découverte à l'apiculture, des après-midi, hein, en juin et juillet. Et pour apprendre aux gens, justement, à découvrir, ouvrir la ruche, à peut-être marquer une reine suivant le travail de l'apiculteur qu'il y aura à faire au moment. Il y aura de la théorie, il y aura la visite du musée, il y aura plein de choses pour que les gens découvrent une passion et puis une ruche au fond du jardin. Bon, en ville, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des normes à respecter par rapport aux établissements publics, par rapport aux voiries, tout ça. Mais moi, sur le Mans, j'ai des clients qui ont une ruche dans le centre-ville du Mans parce qu'ils sont en pavillon, ils ont une haie de 2 mètres au fond du terrain et ils font du miel tous les ans, un petit peu de miel pour leur consommation. Donc moi, je suis dans l'idée d'aider les gens à avoir des ruches. Donc je suis en partenariat avec le Rucher École de la Sarthe. Le syndicat des apiculteurs de la Sarthe, pour pouvoir dire, on aide les gens à avoir une, deux ruches au fond du jardin.
Voilà, alors, paraît-il qu'il y a beaucoup de ruches, notamment à Paris, qui auraient moins de produits phytosanitaires et qu'elles retrouveraient une diversité de fleurs, hein, malgré ce qu'on pourrait appeler la pollution des villes, la pollution urbaine due au monoxyde de carbone, notamment, apparemment, ça ne les gêne pas trop. Et je sais d'expérience que les pompiers de l'Opéra de Paris, par exemple, ont leur propre rucher en haut sur les toits et qu'ils fabriquent leur miel. Voilà, comme quoi tout est possible et on peut aider aussi peut-être à augmenter cette population d'abeilles. Je le disais tout à l'heure, Albert Einstein avait soutenu cette théorie que si l'abeille disparaissait, l'homme n'aurait plus que 4 années, enfin l'homme et la femme, l'humain, les êtres en général, les êtres vivants n'auraient plus que 4 années devant eux.
Eh oui, ça c'est... Il n'était pas bête à quand même avoir dit ça. Bah, tu s'expliques par la pollinisation. Hein.
Hautement Durable, une émission coproduite par Fréquence Sillée 97.9 et Radio Alpes-Mancel 106.3 en partenariat avec le Pays de la Haute-Sarthe.
Alors, est-ce que ça veut dire que l'abeille est le plus gros pollinisateur? Parce qu'il y a quand même d'autres insectes pollinisateurs. Est-ce que ces autres pollinisateurs souffrent aussi? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait si eux aussi souffrent de ce même fléau?
Des chiffres, j'en ai pas à vous donner, mais si les insectes pollinisateurs abeilles souffrent, tout ce qui est papillons, les oiseaux, les petits oiseaux, ça va souffrir, ça souffre automatiquement. Les abeilles sont un pollinisateur à plus de 85%, voire 95, voire 96 sur certains, comme les cerises, c'est 96%, les pommes, ça doit être 85%. Mmh. Donc, pourquoi les gens aujourd'hui, ils nous louent les ruches pour pouvoir les mettre dans les vergers de pommiers, de cerisiers, tout ça, pour pouvoir avoir des meilleurs rendements? On augmente de 30% un rendement des pommiers, quoi. Donc, si l'abeille souffre, les autres vont souffrir automatiquement.
Alors, il y a des coins, notamment en Chine, on en est venu même à polliniser à la main. On imagine le travail que ça fait, hein, polliniser des fleurs, des arbres fruitiers à la main. Bon, et c'est une course contre la montre un petit peu.
Oui. Bon, ça va que la main d'œuvre est pas chère là-bas, ouais. Mais sinon, en France, ça serait pas possible. En France, ça serait pas possible. Ça serait du boulot monstre. Financièrement parlant, les producteurs, les arboriculteurs, ils pourraient pas. Ils pourraient pas, c'est pour ça qu'ils nous louent les ruches.
Donc, pour protéger ces abeilles, Pascal, on peut rappeler quelques conseils de bon sens, laisser un coin de friche dans son jardin. Qu'est-ce qu'on peut, éviter de mettre des produits, aller le plus près de la nature possible?
Ah, ben oui, déjà, les produits phyto, on n'aime pas trop, ça c'est sûr. Mais ceux qui ont un petit jardin, oui, mettez des fleurs et des plantes mellifères. Les arbres, des cities, des acacias, plein de petites choses comme ça. Ça permettra aux abeilles de venir. Et puis si les gens ils trouvent un essaim d'abeilles, qu'ils ne détruisent pas. On est là pour les récupérer.
Alors voilà, ça c'est une question importante. Lorsqu'on a un essaim d'abeilles dans son toit, à un endroit inaccessible, est-ce que vous venez, vous apiculteurs, ou parfois c'est pas possible de récupérer cet essaim, donc comment on fait?
Tout ce qui est les dessous de toit, les cheminées, les dans les murs, tout ça, nous on fait pas parce que c'est trop trop compliqué. Après il y a des sociétés privées maintenant qui le font, ou alors après c'est les pompiers, mais malheureusement ils détruiront. Hein.
Donc, les pompiers vont détruire l'essaim.
Sur notre accord, par contre. Hein, si les gens appellent les pompiers, ils disent non, il faut appeler un apiculteur avant. Donc les gens nous rappellent, on donne l'autorisation ou pas. Mm-hmm. Et là, les pompiers interviennent.
C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas extraire l'essaim, bien sûr.
On est obligé de le détruire, malheureusement. Mais après, s'il y a un essaim qui arrive sur un poteau de clôture, dans l'herbe, sur le mur, mais qu'il n'est pas encore rentré, sur une branche, là, on a accès, il n'y a pas de souci. Hein. Les gens nous appellent au musée de l'abeille à la hutte. On viendra dans le quart d'heure, on est chez eux.
Qu'est-ce qui fait qu'une colonie d'abeilles s'installe dans un endroit plus qu'un autre? Est-ce qu'elles partent en reconnaissance d'abord et puis elles restent quelques jours autour d'une maison avant de s'installer? Ou comment elles définissent cet endroit qu'elles choisissent?
En fait, ça part de la ruche elle-même, de la ruche mère. La reine va pondre énormément et va plus avoir assez de place dans la ruche pour toute la population. Donc à ce moment-là, il y a des éclaireuses qui vont aller repérer un endroit. Donc à l'abri de la pluie ou tout simplement dans un endroit chaud, sous une toiture, etc. Donc ça va tournoyer, les abeilles vont tourner autour soit des maisons, soit d'un arbre, soit tout ça. Et à un moment donné, les abeilles décident de partir, de former un essaim. Donc il y a un gros nuage d'abeilles qui part. Et ça, c'est les vieilles reines, en fait, qui partent.
Mais elles partent toutes ou bien il y a une partie de l'essaim qui reste? D'accord.
Ouais,
elles se scindent, en fait.
Voilà. C'est la vieille reine qui part avec une partie de la population. Hein, pendant ce temps-là, il y a une nouvelle reine qui se recrée dans la ruche. Et suivant l'âge de la reine, elle va aller plus ou moins loin de la ruche. Si c'est une reine qui a 3 ans, elle est lourde, donc elle va pas voler loin.
Ça peut vivre jusqu'à combien?
Jusqu'à 5 ans. Bon, aujourd'hui, avec tous les soucis qu'on a, déjà 3 ans,
oui,
c'est beau.
C'est beau.
Ouais. Et donc, si on trouve un essaim dans un arbre, c'est parce qu'elles font une pause. C'est-à-dire qu'elles ont peut-être repéré un toit ou une cheminée, mais la reine est fatiguée, donc elle va se poser. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on la rattrape, avant qu'elle aille encore plus loin.
Voilà, donc il faut avoir l'œil. Et si on voit un essaim en pleine campagne comme ça, on laisse faire ou on vous appelle?
Il faut mieux nous appeler. Ouais.
Ah, donc même
ou alors
si
les gens n'ont pas peur, et ils prennent une boîte en carton et puis ils secouent les seins dans la boîte en carton, normalement,
bon, ça, c'est peut-être un petit peu, petit peu risqué. On va plutôt dire qu'ils vous appellent. Donc, si vous trouvez un essaim en pleine nature comme ça, bon, bah, ce sont des reines qui vont chercher à coloniser un autre endroit. Vous voyez, les apiculteurs sont très preneurs de ces essaims. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à ces abeilles? Une longue vie, mais comment? C'est toute la question, Pascal.
Une longue vie saine.
Une longue vie saine.
Ouais, et que, bah, qu'elle se développe, et puis qu'on trouve la solution pour les,
vous
les
êtes
conserver.
Vous êtes optimiste plutôt pour la suite?
Entre deux, on va dire 50-50.
Ouais.
Moi, pour moi, par rapport à mon métier, ma passion, j'ai envie que ça se développe, quoi. Oui, que les abeilles, on trouve la solution de dire on peut les soigner, on les déplace, ou on, je sais pas, la solution pour éviter qu'elles meurent ou qu'elles disparaissent. Et d'un autre côté, ça, je pense que ça va être très très long. Donc
Voilà, bien c'est sur cette note mi-pessimiste, mi-optimiste que nous allons nous quitter. Et puis, vous l'aurez compris, pour aider les abeilles, éviter les produits toxiques dans vos jardins, laisser un coin de friche. Voilà, des petites choses, des petits riens qui, mis bout à bout, peut-être arriveront à enrayer ce fléau de la disparition des abeilles. Merci Pascal Fouché.
Merci.
Hautement durable, un magazine sur l'environnement et le développement durable. Une émission coproduite par Fréquence Sillée 97.9 et Radio Alpes-Mancel 106.3 en partenariat avec le Pays de la Haute-Sarthe.
Cette émission était préparée et présentée par Patricia Prévost
et réalisée par Jean-Michel Pontier.